VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 5 mars 2015, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Au sommaire de cette édition,
le président Idriss Déby Itno du Tchad promet d'anéantir Boko Haram.
La Libye a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'assouplir son embargo sur les livraisons d'armes pour lui permettre de contrer la menace croissante que pose le groupe État islamique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle les groupes rebelles du nord du Mali à paraffer l'accord de paix d'Alger.
Au Togo, la synergie des travailleurs du Togo entame son dernier jour de grève de 72 heures dans les secteurs de la santé et de l'éducation.
L'ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud, blessé au visage à Séoul par un assaillant armé d'un couteau.
Les écoles new-yorkaises vont ajouter à leur jour de congé deux fêtes musulmanes à partir de la rentrée prochaine, a annoncé le maire Bill de Blasio. Et ne manquez pas notre rubrique, la Minute Éco, ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Nous commençons par l'attaque contre l'ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud, Mark Lippert, qui a été blessé au visage par un assaillant armé d'un couteau de 25 cm tôt ce matin à Séoul, la capitale. Son état est qualifié de stable. Selon des témoins, M. Lippert, 42 ans, a été attaqué alors qu'il était en petit déjeuner par un homme de 55 ans, un certain Kim Ki-jong, qui, selon les médias locaux, criait « Le Sud et le Nord devraient être réunifiés ». Les États-Unis ont stationné quelque 28 000 militaires en Corée du Sud comme moyen de dissuasion face à la Corée du Nord. Les deux pays sont divisés depuis des décennies et pour certains Sud-Coréens, la présence américaine constitue un obstacle à la réunification. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye a dénoncé, et je cite, « cette attaque contre l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis ». De son côté, le département d'État américain a condamné l'incident.
En Afrique maintenant, Idriss Déby Itno promet d'anéantir Boko Haram. Le président tchadien affirme savoir où se trouve Aboubakar Shekau et qu'il n'hésitera pas à l'éliminer s'il ne se rend pas, Nicolas Pineau.
Idriss Déby Itno a lancé cet avertissement mercredi à l'issue de sa rencontre avec son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou, en visite à N'Djamena. Le président tchadien explique que Shekau a intérêt à se rendre, nous savons là où il est. S'il refuse, il va subir le même sort que ses camarades ont subi. Selon Idriss Déby, le chef de Boko Haram aurait fui Dikwa après la prise de la ville par l'armée tchadienne, c'était le 17 février. Le chef de l'État tchadien promet de gagner la guerre contre les djihadistes et d'anéantir Boko Haram. L'heure a sonné pour tout musulman du Tchad, du Niger ou d'ailleurs de se réveiller et de faire face à ce qu'on appelle le terrorisme islamique. Il faut faire face à ces criminels qui détruisent notre belle religion, a insisté M. Déby. Selon certaines estimations, l'insurrection de Boko Haram et sa répression par les forces armées nigérianes ont fait plus de 13 000 morts dans le nord-est du pays depuis 2009.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé mercredi les groupes rebelles du nord du Mali à paraffer l'accord de paix conclu dimanche à Alger avec le gouvernement malien. Cet accord encore inachevé a été paraffé par le gouvernement, mais pas par les rebelles du nord qui ont réclamé un délai pour consulter leur base. À l'issue de consultations sur ce dossier, les 15 pays membres du Conseil encouragent les groupes armés de la coordination à paraffer l'accord, a déclaré l'ambassadeur français François Delattre, qui préside le Conseil en mars. Ils ont aussi inviter toutes les parties à le signer et à s'engager pour sa pleine et sincère mise en œuvre, selon l'AFP. Le Conseil a salué ce projet d'accord comme une étape importante vers la conclusion d'un accord global et inclusif pour une paix durable au Mali, a ajouté l'ambassadeur. Les 15 pays membres ont aussi salué les efforts de médiation de l'Algérie et l'esprit de compromis qui a présidé aux négociations d'Alger.
La Libye, pour sa part, demande au Conseil de sécurité de l'ONU d'assouplir son embargo sur les livraisons d'armes pour lui permettre de contrer la menace croissante que constituent les militants islamistes qui sont déjà emparés d'importants champs pétroliers dans le pays. Elle veut, dit-on, des blindés, avions de combat et fusils. L'ambassadeur libyen Ibrahim Dabashi a dit à la presse que si elle n'a pas assez d'armes, la Libye ne pourra pas faire face à ses défis sécuritaires. Ses armes, a-t-il assuré, n'iront qu'à l'armée libyenne et à personne d'autre. Et il a exhorté le Conseil à envoyer sur place des observateurs. Quant à l'émissaire spécial de l'ONU, Bernardino León, il a averti que le groupe État islamique ne s'arrêtera à rien en Libye. Et il a demandé à la communauté internationale d'agir sans tarder pour aider le gouvernement d'Union nationale de Libye à combattre la menace croissante du terrorisme. C'est aujourd'hui que reprennent au Maroc, sous l'égide de l'ONU, les pourparlers de paix sur la Libye.
Au Congo-Brazzaville, et selon l'AFP, une petite société de négoce qui n'a qu'un seul actionnaire, Filia, liée à la raffinerie publique congolaise dirigée par le fils du président congolais, Denis Christel Sassou Nguesso, aurait détourné de substantiels revenus du pétrole. Cette allégation, attribuée à une ONG suisse, la déclaration de Berne, a été démentie par une source à la présidence congolaise, ajoute l'agence France-Presse. Selon l'ONG suisse, Filia a obtenu un contrat exclusif pour l'exportation de produits pétroliers congolais, sans appel d'offres lancé par la CORAF.
Cette source à la présidence, qui a requis l'anonymat, a déclaré qu'elles soient fondées ou pas, ces accusations contre le fils du président relèvent d'une autre époque. C'est une ingérence sans précédent dans les affaires congolaises, tôt ou tard. Nous répondrons pour donner la vraie version des faits. L'actionnaire unique de Filia est un Gabonais, Jean-Philippe Amouamdong, qui entretient des relations privilégiées, dit-on, avec Denis Christel Sassou Nguesso, selon la déclaration de Berne.
Au Kenya, pendant ce temps, inculpation de 7 anciens responsables en rapport avec un scandale de corruption portant sur plusieurs millions de dollars et lié à l'affaire dite Anglo-Leasing. Les précisions de Michel Joseph.
Parmi les mises en cause, le sénateur Chris Obure, ancien ministre des Finances, des fonctionnaires des ministères des Finances, de la Sécurité et des Postes et Télécommunications. Des hommes d'affaires kényans et étrangers sont également visés par cette action judiciaire. Tout est parti de 18 contrats de fourniture de matériel de sécurité, le tout d'une valeur de plus de 640 millions de dollars, octroyés à la fin des années 1990. Selon l'AFP, certains avaient été accordés à des sociétés présumées fictives et d'autres pour des services jamais fournis ou surfacturés. L'État kényan avait versé jusqu'à 200 millions de dollars. Le poteau rose a été découvert lorsque l'une des principales sociétés adjudicataires, la britannique Anglo-Leasing, s'était avérée fictive. Deux compagnies ayant bénéficié des marchés liés au scandale ont tout de même réussi à faire condamner l'État kényan pour non-paiement devant les tribunaux de Paris et Londres, ce qui a obligé le président kényan Uhuru Kenyatta à ordonner le déblocage d'une enveloppe de près de 16 millions de dollars en leur faveur.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Poursuite à Boston du procès de Jokhar Tsarnaev, qui est accusé d'avoir perpétré en 2013 l'attentat à la bombe qui avait fait 3 morts et 264 blessés à la ligne d'arrivée du marathon de Boston. Hier, à l'ouverture du procès, son avocate Judy Kroc a dit au jury que son client a aidé à commettre ce crime, mais elle a soutenu qu'il avait agi sous l'influence de son frère aîné Tamerlan, qui était le vrai cerveau derrière ce complot. Le prévenu risque la peine de mort s'il est reconnu coupable. En tentant de blâmer Tamerlan, la défense espère convaincre le jury de ne pas condamner à mort son client, qui est âgé maintenant de 21 ans.
Enfin, les écoles new-yorkaises vont ajouter à leurs jours de congé deux fêtes musulmanes à partir de la rentrée prochaine, a annoncé mercredi le maire Bill de Blasio, dont c'était une promesse de campagne. Le 24 septembre prochain, les écoles publiques new-yorkaises seront fermées pour l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice d'Abraham. Et à partir de l'été 2016, les écoles fermeront aussi pour l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du jeûne du Ramadan, a précisé le maire, cité par l'AFP. Les écoles new-yorkaises ferment déjà pour plusieurs fêtes juives et chrétiennes.
Et maintenant, notre Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le produit intérieur brut de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a progressé de 6,6% en 2014 contre 5,9% l'année précédente, a annoncé hier à Dakar le gouverneur Tiemoko Meliet-Kone, président du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, rapporte l'agence de presse africaine. Selon M. Kone, la performance est due à l'amélioration de la production agricole, du secteur industriel et des services marchands, notamment dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. La synergie des travailleurs du Togo entame son dernier jour de grève de 72 heures. Les syndicats de fonctionnaires de la santé et de l'éducation réclament des revalorisations salariales depuis 2013. Pour ce faire, ils relancent régulièrement les mouvements de grève. Akora Kofitse, professeur de mathématiques en grève, explique pourquoi la STT a claqué la porte au comité de suivi.
On a claqué la porte parce qu'il y a six centrales. Ces deux centrales sont vraiment liées au gouvernement et souvent, c'est eux qui font que la situation du pays est stable. Ils ne disent pas la vérité. Si on travaille, on était avec eux dans la même partie, mais les fonctionnaires ne sont pas contents des deux centrales.
Au Zimbabwe, l'ouverture de la campagne de commercialisation du tabac hier s'est traduite par une émeute de fermiers mécontents du niveau des prix affichés qu'ils estiment très bas, indique l'APA. Les protestations ont été générées par une chute soudaine des prix qui sont passés de quelque 3,50 $ le kilo à l'ouverture de la séance à 6 cents le kilo en milieu de matinée.
À présent, les sports avec Timothée de Langmaï. Bonjour Tim.
Bonjour Idrissa.
Football africain, un nouvel entraîneur pour le club ivoirien CES Sport de San Pedro.
Eh oui Idrissa, il s'agit de Njoya Mesak Moril. C'est en fait un retour à San Pedro pour ce technicien camerounais qui était déjà avec le CES Sport en 2012. Njoya Mesak Moril a aussi entraîné le club mauritanien du FC Nouadhibou et travaillé avec le Wydad Athletic Club du Maroc. Il remplace Rigos Gervais, remercié mardi, et aura pour mission de relancer le CES mal en point depuis son échec en finale de la Coupe de la CAF 2014 face à Al Ahly du Caire.
En Espagne, Barcelone s'est propulsé hier en finale de la Coupe du Roi.
Le club catalan a défait hier Villarreal par 3-1 sur un doublé de Neymar et un but de Luis Suarez. Il faut dire que le Barça a abordé la partie avec dans l'escarcelle sa victoire 3-1 de l'Ali. Une énorme satisfaction pour l'entraîneur Luis Enrique, arrivé en début de saison au Barça. Pour remporter le trophée le 30 mai, Barcelone devra défaire l'Atlético Bilbao, vainqueur hier soir par 2-0 de l'Espagnol.
Toujours en Europe, sanctions de l'UEFA contre le Dynamo Kiev et l'AS Rome.
Des sanctions liées aux incidents qui ont émaillé leurs matchs respectifs en Europa League jeudi dernier. Pour le Dynamo, le prochain match, huitième de finale à domicile, contre le club anglais d'Everton, se jouera à huis clos partiel en plus d'une amende de 70 000 euros. La Roma, elle, a écopé d'une amende de 10 000 euros. Elle affrontera en huitième de finale la Fiorentina.
Un mot de rugby à présent avec l'Afrique du Sud qui souhaite organiser une autre Coupe du Monde de ce sport en 2023.
C'est ce qu'a annoncé le président de la Fédération sud-africaine de rugby, Jury Roux, hier. Si l'Afrique du Sud décroche l'organisation de ce tournoi-là, celui-ci se tiendrait alors 28 ans après que Nelson Mandela aura remis le trophée mondial au capitaine sud-africain François Pienaar, a rappelé Jury Roux. L'Afrique du Sud a remporté la Coupe du monde de rugby à deux reprises, en 1995 et en 2007. Et pour terminer, le championnat nord-américain de basketball professionnel, la NBA, Idrissa.
New York Knicks 82, Indiana 105, Phoenix 105, Orlando 100, Utah 84, Boston 85, Charlotte 115, Brooklyn Nets 91, Cleveland 120, Toronto 112, Memphis 102, Houston 100, Denver 100, Minnesota 85, Détroit 85, New Orleans Pelicans 88, Philadelphia 118, Oklahoma City 123, LA Lakers 94, Miami 100, Sacramento 85, San Antonio Spurs 112.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, après avoir claqué la porte au comité de suivi, la synergie des travailleurs du Togo entame son dernier jour de grève de 72 heures dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Nicoué Brom, a dit que le gouvernement était résolu à poursuivre la revalorisation des salaires dans la fonction publique, mais les syndicats attendent de voir. Nathalie Barge a joint Akora Kofitse, professeur de mathématiques à Lomé et membre de la STT.
Nous avons fait la grève parce que notre condition de vie, le travail, n'est pas bien payé dans le pays. Alors on a demandé au gouvernement de arranger notre situation. Jusqu'alors, ils ne disaient rien. Pourquoi on a relancé la grève?
Pourquoi la synergie des travailleurs du Togo a-t-elle claqué la porte au comité de suivi?
Et on a claqué la porte au comité de suivi parce qu'il y a six centrales. Les deux centrales, ils sont vraiment liés au gouvernement. Et souvent, c'est eux qui font que la situation du pays est instable. Donc nous, on a claqué la porte parce qu'ils ne disent pas la vérité. Si on travaille, on était avec eux dans la semaine passée, mais les fonctionnaires ne sont pas contents des deux centrales. C'est pourquoi on a claqué la porte.
Quel type de délai attendez-vous pour être satisfait dans votre demande?
On n'a pas un délai, c'est que jusqu'alors, quand on a claqué la porte, le gouvernement ne nous a pas encore appelé. On va décider ce qui va se passer la semaine prochaine. Les travailleurs de la synergie du Togo et la STT se retrouvent vendredi après-midi. On va décider ce qui va se passer la semaine prochaine.
Est-ce que vous pourriez nous dire combien vous gagnez par mois en tant que professeur de mathématiques?
Ce qu'on gagne par mois, c'est une liste. Les fonctionnaires togolais sont les moins payés dans la zone du mois. Moi, je suis un professeur, mais je suis à 150 000 par mois. Je ne sais pas comment vous allez convertir ça en dollars.
Est-ce que vous pouvez rappeler depuis combien de temps, finalement, vous réclamez cette revalorisation salariale?
Depuis 2013, on avait commencé à demander cette revalorisation, mais on parle que des conditions. Ces conditions, on n'a pas d'été financé jusqu'aujourd'hui.
Est-ce que vous êtes nombreux à faire la grève dans le milieu de l'enseignement?
C'est plus de 200%. Et toute l'administration, que ce soit médecine, santé, fonction publique, la grève a vraiment toute l'administration dans le pays. C'est-à-dire que le gouvernement de faire tout pour que nos conditions de travail et de vie soient améliorées d'ici la semaine prochaine, c'est que la grève fait.
Akora Kofitse, professeur de mathématiques à Lomé et membre de la STT.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Au Burkina Faso, en vue des élections présidentielles et législatives du 11 octobre prochain et des municipales du 31 janvier 2016, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a lancé à partir du 3 mars et ce jusqu'au 18 mai, une opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Le coup d'envoi a été donné par le président de la transition à Kaya, ville située à 100 km de Ouagadougou, la capitale. Reportage sur les enjeux de cette opération avec notre correspondant Zoumana Wonogo.
Avoir sa carte d'électeur sous le régime de Blaise Compaoré n'était pas la préoccupation de beaucoup de Burkinabés, surtout la frange majoritaire jeune. Les raisons, suivons ce vox pop.
Vous voyez, la politique chez nous, c'est celui qui est au pouvoir, tu mérites le pouvoir. Donc je veux dire que celui qui est au pouvoir, il n'a pas besoin de faire des voix. Mais de toutes les façons, même si tu votes, ça peut vérifier que l'acte que tu as posé va engendrer.
La jeunesse, 80% s'en fichait pas mal des cartes d'électeurs. Pour eux, ce sont des trucs machin.
En tout cas, autant de Blaise là, si tu votais ou tu ne votais pas, c'est la même chose. Il n'y aura pas de changement aussi. Puisque au niveau des trucs là, même des élections là, il y a des fraudes là-bas. Donc si tu votes ou pas là, en tout cas c'est Blaise qui va gagner.
Si les uns et les autres avaient des motifs pour refuser de participer aux élections, ces raisons sont désormais caduques à la faveur de l'insurrection populaire. Tel est le sentiment du président de la transition, Michel Kafando.
Dans ce vent de renouveau et de liberté insufflé par la transition, plus rien ne devrait être invoqué par qui que ce soit pour ne pas s'inscrire sur la liste électorale. C'est en votant qu'on évite de se voir imposer des dirigeants irresponsables. C'est en participant au scrutin que l'on contribue à se choisir des régimes crédibles.
Cette révision exceptionnelle qui s'étale du 3 mars au 18 mai nécessitera des moyens financiers et humains. Suivant son opérationnalisation avec Maître Barthélémy Kéré, le président de la CENI.
Pour mener à bien cette opération, la CENI fait donc usage d'un personnel qualifié composé de plusieurs milliers d'opérateurs, d'aides opérateurs et encadré par des superviseurs, ingénieurs informaticiens. Le personnel est équipé d'une technologie de pointe et travaille sous l'encadrement administratif des membres des démembrements et des commissaires de la CENI. L'enjeu de cette opération, c'est d'accroître de manière significative le taux d'inscription sur les listes électorales et par là même d'impacter sur le taux de participation aux élections devant mettre fin à la transition.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Bénin, pendant ce temps, la liste électorale permanente, informatisée et finalement prête, elle a été remise officiellement hier à la CENA, la Commission électorale nationale autonome, pour servir de base aux élections législatives prochaines. Ce qui vient mettre un terme à toute suspicion sur la non-tenue éventuelle des élections au Bénin, nous dit Peggy Ludovic Dagba.
La liste électorale permanente informatisée a été remise officiellement à la Commission électorale nationale autonome ce 4 mars 2015. Un acte qui vient définitivement installer dans ses prérogatives d'organisatrice des prochaines élections législatives la CENA, à en croire son président Emmanuel Tiando.
Avec la LEPI que nous recevons aujourd'hui, nous pouvons rassurer le peuple béninois que le processus électoral est définitivement entré dans sa phase très active parce que la LEPI constitue l'épine dorsale de l'organisation des élections dans notre pays, comme le prévoit notre code électoral. La poursuite du processus débouchera bientôt sur l'organisation des élections législatives. La CENA prend l'engagement aujourd'hui, en recevant cette liste, d'œuvrer de façon diligente à l'organisation de ces élections législatives prévues pour le 26 avril 2015.
Selon les statistiques que présente la LEPI, 4 470 591 électeurs prendront part aux prochaines élections. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur le problème d'accès à l'électricité en Afrique. Comment en êtes-vous affecté dans vos pays respectifs? Vos témoignages sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Soudan du Sud, les belligérants critiquent la résolution adoptée mardi par les Nations Unies, laquelle ouvre la voie à des sanctions au cas où un accord global ne serait pas conclu ce jeudi. C'était donc la course contre la montre hier à Addis Abeba où se déroulent des pourparlers visant à mettre fin à 15 mois de violence dans la plus jeune nation du monde. Le président Salva Kiir et son rival et ex-vice-président Riek Machar ont suspendu jeudi leur face-à-face et en fait n'ont pu s'entendre sur rien pendant 2 jours de discussion à huis clos. Ils rencontreront séparément les médiateurs de l'IGAD aujourd'hui. Chérubin Dorsil nous présente le reportage de Martha van der Wolf.
Après des mois de frustration, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de mettre à exécution, le mardi 3 mars, sa menace d'imposer des sanctions tant au gouvernement qu'à la rébellion, à moins que les deux parties n'arrivent à un accord détaillé de partage de pouvoir au plus tard le 5 mars. Pour Goy Joyul, un membre de la délégation de l'opposition sud-soudanaise, c'est une décision prématurée. Il fait pourtant remarquer qu'en dépit du malaise causé par cette résolution qui intervient durant les négociations, l'opposition salue le vote à cause de ceux qui font obstacle à la paix. Si rien n'est conclu aujourd'hui et que l'ONU impose des sanctions, celles-ci auraient pour effet de geler les avoirs et privilèges de voyage de n'importe quel individu considéré comme obstruant la paix ou coupable d'abus de droits humains. En cas de violation d'un accord par les deux camps, un embargo sur les armes pourrait s'en suivre. Jusqu'à hier soir, aucun signe de progrès n'était perceptible à Addis. Kiir et Machar se sont entretenus pendant environ 5 heures mardi avant de continuer hier matin. Mais sur la question de la sécurité, les deux hommes sont loin d'être d'accord, dit Goy Joyul. Nous pensons que les questions sécuritaires requièrent beaucoup de mise en confiance. Aussi demandons-nous plus de temps pour l'intégration des forces. Cela ne devrait pas se faire aussi rapidement que l'exige le gouvernement. De son côté, le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères, Barnaba Marial Benjamin, estime aussi que la menace de sanctions est contre-productive.
The decision of sanctions actually blocks the peace process.
Selon lui, c'est une décision qui bloque en réalité le processus de paix. Elle remet aussi en question le partenariat conclu entre l'ONU et l'Union africaine. Ils auraient dû attendre, dit-il, la décision de l'IGAD avant de se prononcer. Le chef de la diplomatie sud-soudanaise s'est montré déçu du rôle des États-Unis dans l'adoption de la résolution du 3 mars. Mais le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn a rappelé aux belligérants que la région et la communauté internationale ne vont pas rester les bras croisés, tandis que s'accentue une crise politique et humanitaire au Soudan du Sud.
Salon de l'agriculture à Niamey au Niger, reportage d'Abdourazak Idrissa.
Pendant 5 jours, le palais des sports de Niamey est transformé en un véritable lieu de rencontres, d'échanges et de transactions diverses. La 2e édition du Salon nigérien de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage et de l'environnement Sahel-Niger offre en effet aux acteurs du monde rural une occasion de présenter les fruits de leurs travaux au public, comme ici au stand des aviculteurs.
Là, c'est le stand de la plateforme des acteurs de la filière avicole. On a pris des échantillons au niveau des fermes pour pouvoir exposer des poulets de souches exotiques qui sont des poules Brahma avec différentes variétés. On a amené des œufs de consommation qui se vendent, des pigeons qui sont un peu qui contribuent à l'élevage exotique. De l'autre côté, il y a également l'élevage à but lucratif. On a exposé des couveuses, on a exposé des poussins, on a exposé également des équipements tels qu'une plumeuse.
Vous exposez seulement ou bien vous vendez aussi?
On expose, on vend.
Entre une discussion avec 2 visiteurs, Mustapha Kadri, producteur et transformateur d'oignons, nous explique ce qu'il fait avec son produit.
Nous transformons l'oignon, comme vous le voyez, nous le transformons en lanière et en semoule et en poudre. Donc cette poudre-là, nous avons un projet de transformation de 200 000 tonnes qui seront transformées en 20 000 tonnes de poudre. Et nous avons aussi la confiture. Nous faisons de la confiture d'oignon que voici. Donc cette confiture d'oignon, elle est artisanale aussi, c'est à la main. C'est les femmes qui le font. Nous allons la transformer en industrie.
Un peu plus loin, Absou, venu de l'intérieur du pays, présente devant son stand son produit, du tapioca à base de manioc.
Voilà le manioc qui est là. C'est une tubercule qui est produite à Damari et transformée à Damari. Oui, les gens ont commencé à acheter. Pour nous, vraiment, ce qu'on avait priorisé, c'était l'exposition, faire voir le produit, faire connaître ce que nous faisons. Mais comme nous avons vu que les gens sont intéressés, nous étions obligés de vendre.
À l'autre bout du palais des sports, l'on aperçoit des béliers et des vaches avec des poids qui sortent un peu de l'ordinaire ici, ce qui émerveille le public qui a envahi les lieux dès le lancement du salon.
C'est tout simplement extraordinaire. Je retiens que il y a, même par rapport à l'édition de 2014, j'ai noté qu'il y a beaucoup de progrès.
On a vu de très belles espèces, mais on a vu aussi de très bons produits, surtout comment les communautés s'organisent pour mettre en valeur en fait ces productions. Donc toute la chaîne de valeur, mais surtout à la fin la commercialisation.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Oui, galo, mbain kodo, galo, nga. As galo, mbain kodo, galo, nga.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Butson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 5 mars 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Au sommaire de cette édition...
Le président Idriss Déby Itno du Tchad promet d'anéantir Boko Haram.
La Libye a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'assouplir son embargo sur les livraisons d'armes pour lui permettre de contrer la menace croissante que pose le groupe État islamique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle les groupes rebelles du nord du Mali à paraffer l'accord de paix d'Alger.
Au Togo, la synergie des travailleurs du Togo entame son dernier jour de grève de 72 heures dans les secteurs de la santé et de l'éducation.
L'ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud, blessé au visage à Séoul par un assaillant armé d'un couteau.
Les écoles new-yorkaises vont ajouter à leur jour de congé deux fêtes musulmanes à partir de la rentrée prochaine, a annoncé le maire Bill de Blasio. Et ne manquez pas notre rubrique, la Minute Éco, ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Nous commençons par l'attaque contre l'ambassadeur des États-Unis en Corée du Sud, Mark Lippert, qui a été blessé au visage par un assaillant armé d'un couteau de 25 cm tôt ce matin à Séoul, la capitale. Son état est qualifié de stable. Selon des témoins, M. Lippert, 42 ans, a été attaqué alors qu'il était en petit déjeuner par un homme de 55 ans, un certain Kim Ki-jong, qui, selon les médias locaux, criait « Le Sud et le Nord devraient être réunifiés ». Les États-Unis ont stationné quelques 28 000 militaires en Corée du Sud comme moyen de dissuasion face à la Corée du Nord. Les deux pays sont divisés depuis des décennies et pour certains Sud-Coréens, la présence américaine constitue un obstacle à la réunification. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye a dénoncé, et je cite, « cette attaque contre l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis ». De son côté, le département d'État américain a condamné l'incident.
En Afrique maintenant, Idriss Déby Itno promet d'anéantir Boko Haram. Le président tchadien affirme savoir où se trouve Aboubakar Shekau et qu'il n'hésitera pas à l'éliminer s'il ne se rend pas, Nicolas Pineau.
Idriss Déby Itno a lancé cet avertissement mercredi à l'issue de sa rencontre avec son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou, en visite à N'Djamena. Le président tchadien explique que Shekau a intérêt à se rendre, nous savons là où il est. S'il refuse, il va subir le même sort que ses camarades ont subi. Selon Idriss Déby, le chef de Boko Haram aurait fui Dikwa après la prise de la ville par l'armée tchadienne, c'était le 17 février. Le chef de l'État tchadien promet de gagner la guerre contre les djihadistes et d'anéantir Boko Haram. L'heure a sonné pour tout musulman du Tchad, du Niger ou d'ailleurs de se réveiller et de faire face à ce qu'on appelle le terrorisme islamique. Il faut faire face à ces criminels qui détruisent notre belle religion, a insisté M. Déby. Selon certaines estimations, l'insurrection de Boko Haram et sa répression par les forces armées nigérianes ont fait plus de 13 000 morts dans le nord-est du pays depuis 2009.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé mercredi les groupes rebelles du nord du Mali à paraffer l'accord de paix conclu dimanche à Alger avec le gouvernement malien. Cet accord encore inachevé a été paraffé par le gouvernement, mais pas par les rebelles du nord qui ont réclamé un délai pour consulter leur base. À l'issue de consultations sur ce dossier, les 15 pays membres du Conseil encouragent les groupes armés de la coordination à paraffer l'accord, a déclaré l'ambassadeur français François Delattre, qui préside le Conseil en mars. Ils ont aussi inviter toutes les parties à le signer et à s'engager pour sa pleine et sincère mise en œuvre, selon l'AFP. Le Conseil a salué ce projet d'accord comme une étape importante vers la conclusion d'un accord global et inclusif pour une paix durable au Mali, a ajouté l'ambassadeur. Les 15 pays membres ont aussi salué les efforts de médiation de l'Algérie et l'esprit de compromis qui a présidé aux négociations d'Alger.
La Libye, pour sa part, demande au Conseil de sécurité de l'ONU d'assouplir son embargo sur les livraisons d'armes pour lui permettre de contrer la menace croissante que constituent les militants islamistes qui sont déjà emparés d'importants champs pétroliers dans le pays. Elle veut, dit-on, des blindés, avions de combat et fusils. L'ambassadeur libyen Ibrahim Dabashi a dit à la presse que si elle n'a pas assez d'armes, la Libye ne pourra pas faire face à ses défis sécuritaires. Ces armes, a-t-il assuré, n'iront qu'à l'armée libyenne et à personne d'autre. Et il a exhorté le Conseil à envoyer sur place des observateurs. Quant à l'émissaire spécial de l'ONU, Bernardino León, il a averti que le groupe État islamique ne s'arrêtera à rien en Libye et il a demandé à la communauté internationale d'agir sans tarder pour aider le gouvernement d'Union nationale de Libye à combattre la menace croissante du terrorisme. C'est aujourd'hui que reprennent au Maroc, sous l'égide de l'ONU, les pourparlers de paix sur la Libye.
Au Congo-Brazzaville, et selon l'AFP, une petite société de négoce qui n'a qu'un seul actionnaire, Filia, liée à la raffinerie publique congolaise dirigée par le fils du président congolais, Denis Christel Sassou Nguesso, aurait détourné de substantiels revenus du pétrole. Cette allégation, attribuée à une ONG suisse, la déclaration de Berne, a été démentie par une source à la présidence congolaise, ajoute l'agence France-Presse. Selon l'ONG suisse, Filia a obtenu un contrat exclusif pour l'exportation de produits pétroliers congolais sans appel d'offres lancé par la CORAF.
Cette source à la présidence, qui a requis l'anonymat, a déclaré qu'elles soient fondées ou pas, ces accusations contre le fils du président relèvent d'une autre époque. C'est une ingérence sans précédent dans les affaires congolaises, tôt ou tard. Nous répondrons pour donner la vraie version des faits. L'actionnaire unique de Filia est un Gabonais, Jean-Philippe Amouandong, qui entretient des relations privilégiées, dit-on, avec Denis Christel Sassou Nguesso, selon la déclaration de Berne.
Au Kenya, pendant ce temps, inculpation de 7 anciens responsables en rapport avec un scandale de corruption portant sur plusieurs millions de dollars et lié à l'affaire dite Anglo-Leasing. Les précisions de Michel Joseph.
Parmi les mises en cause, le sénateur Chris Obure, ancien ministre des Finances, des fonctionnaires des ministères des Finances, de la Sécurité et des Postes et Télécommunications. Des hommes d'affaires kényans et étrangers sont également visés par cette action judiciaire. Tout est parti de 18 contrats de fourniture de matériel de sécurité, le tout d'une valeur de plus de 640 millions de dollars, octroyés à la fin des années 1990. Selon l'AFP, certains avaient été accordés à des sociétés présumées fictives et d'autres pour des services jamais fournis ou surfacturés. L'État kényan avait versé jusqu'à 200 millions de dollars. Le poteau rose a été découvert lorsque l'une des principales sociétés adjudicataires, la britannique Anglo-Leasing, s'était avérée fictive. Deux compagnies ayant bénéficié des marchés liés au scandale ont tout de même réussi à faire condamner l'État kényan pour non-paiement devant les tribunaux de Paris et Londres, ce qui a obligé le président kényan Uhuru Kenyatta à ordonner le déblocage d'une enveloppe de près de 16 millions de dollars en leur faveur.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Poursuite à Boston du procès de Jokhar Tsarnaev, qui est accusé d'avoir perpétré en 2013 l'attentat à la bombe qui avait fait 3 morts et 264 blessés à la ligne d'arrivée du marathon de Boston. Hier, à l'ouverture du procès, son avocate, Judy Crock, a dit au jury que son client a aidé à commettre ce crime, mais elle a soutenu qu'il avait agi sous l'influence de son frère aîné Tamerlan, qui était le vrai cerveau derrière ce complot. Le prévenu risque la peine de mort s'il est reconnu coupable. En tentant de blâmer Tamerlan, la défense espère convaincre le jury de ne pas condamner à mort son client, qui est âgé maintenant de 21 ans.
Enfin, les écoles new-yorkaises vont ajouter à leurs jours de congé deux fêtes musulmanes à partir de la rentrée prochaine, a annoncé mercredi le maire Bill de Blasio, dont c'était une promesse de campagne. Le 24 septembre prochain, les écoles publiques new-yorkaises seront fermées pour l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice d'Abraham. Et à partir de l'été 2016, les écoles fermeront aussi pour l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du jeûne du Ramadan, a précisé le maire, cité par l'AFP. Les écoles new-yorkaises ferment déjà pour plusieurs fêtes juives et chrétiennes.
Et maintenant, notre Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le produit intérieur brut de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a progressé de 6,6% en 2014 contre 5,9% l'année précédente, a annoncé hier à Dakar le gouverneur Tiemoko Meliet-Kone, président du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, rapporte l'agence de presse africaine. Selon M. Kone, la performance est due à l'amélioration de la production agricole, du secteur industriel et des services marchands, notamment dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. La synergie des travailleurs du Togo entame son dernier jour de grève de 72 heures. Les syndicats de fonctionnaires de la santé et de l'éducation réclament des revalorisations salariales depuis 2013. Pour ce faire, ils relancent régulièrement les mouvements de grève. Akora Kofitse, professeur de mathématiques en grève, explique pourquoi la STT a claqué la porte au comité de suivi.
On a claqué la porte parce qu'il y a six centrales. Les deux centrales sont vraiment liées au gouvernement. Et souvent, c'est eux qui font que la situation du pays est stable. Ils ne disent pas la vérité. Si on travaille, on était avec eux dans la même partie, mais les fonctionnaires ne sont pas contents des deux centrales.
Au Zimbabwe, l'ouverture de la campagne de commercialisation du tabac hier s'est traduite par une émeute de fermiers mécontents du niveau des prix affichés qu'ils estiment très bas, indique l'APA. Les protestations ont été générées par une chute soudaine des prix qui sont passés de quelque 3,50 $ le kilo à l'ouverture de la séance à 6 cents le kilo en milieu de matinée.
À présent, les sports avec Timothée de Langmaï. Bonjour Tim.
Bonjour Idrissa.
Football africain, un nouvel entraîneur pour le club ivoirien CES Sport de San Pedro.
Eh oui Idrissa, il s'agit de Njoya Mesak Moril. C'est en fait un retour à San Pedro pour ce technicien camerounais qui était déjà avec le CES Sport en 2012. Njoya Mesak Moril a aussi entraîné le club mauritanien du FC Nouadhibou et travaillé avec le Wydad Athletic Club du Maroc. Il remplace Rigos Gervais, remercié mardi, et aura pour mission de relancer le CUE, mal en point depuis son échec en finale de la Coupe de la CAF 2014 face à Al Ahly du Caire.
En Espagne, Barcelone s'est propulsé hier en finale de la Coupe du Roi.
Le club catalan a défait hier Villarreal par 3-1 sur un doublé de Neymar et un but de Luis Suarez. Il faut dire que le Barça a abordé la partie avec dans l'escarcelle sa victoire 3-1 de l'Ali. Une énorme satisfaction pour l'entraîneur Luis Enrique, arrivé en début de saison au Barça. Pour remporter le trophée le 30 mai, Barcelone devra défaire l'Atlético Bilbao, vainqueur hier soir par 2-0 de l'Espagnol.
Toujours en Europe, sanctions de l'UEFA contre le Dynamo Kiev et l'AS Rome.
Des sanctions liées aux incidents qui ont émaillé leurs matchs respectifs en Europa League jeudi dernier. Pour le Dynamo, le prochain match, huitième de finale à domicile, contre le club anglais d'Everton, se jouera à huis clos partiel en plus d'une amende de 70 000 euros. La Roma, elle, a écopé d'une amende de 10 000 euros. Elle affrontera en huitième de finale la Fiorentina.
Un mot de rugby à présent avec l'Afrique du Sud qui souhaite organiser une autre Coupe du Monde de ce sport en 2023.
C'est ce qu'a annoncé le président de la Fédération sud-africaine de rugby, Jury Roux, hier. Si l'Afrique du Sud décroche l'organisation de ce tournoi-là, celui-ci se tiendrait alors 28 ans après que Nelson Mandela aura remis le trophée mondial au capitaine sud-africain François Pienaar, a rappelé Jury Roux. L'Afrique du Sud a remporté la Coupe du monde de rugby à deux reprises, en 1995 et en 2007. Et pour terminer, le championnat nord-américain de basketball professionnel, la NBA, Idrissa.
New York Knicks 82, Indiana 105, Phoenix 105, Orlando 100, Utah 84, Boston 85, Charlotte 115, Brooklyn Nets 91, Cleveland 120, Toronto 112, Memphis 102, Houston 100, Denver 100, Minnesota 85, Détroit 85, New Orleans Pelicans 88, Philadelphia 118, Oklahoma City 123, LA Lakers 94, Miami 100, Sacramento 85, San Antonio Spurs 112.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, après avoir claqué la porte au comité de suivi, la synergie des travailleurs du Togo entame son dernier jour de grève de 72 heures dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Nicoué Brom, a dit que le gouvernement était résolu à poursuivre la revalorisation des salaires dans la fonction publique, mais les syndicats attendent de voir. Nathalie Barge a joint Akora Kofitse, professeur de mathématiques à Lomé et membre de la STT.
Nous avons fait la grève parce que notre condition de vie, le travail, on n'est pas bien payé dans le pays. Alors on a demandé au gouvernement de arranger notre situation. Jusqu'alors, il ne disait rien. Pourquoi on a relancé la grève?
Pourquoi la synergie des travailleurs du Togo a-t-elle claqué la porte au comité de suivi?
Et on a claqué la porte au comité de suivi parce qu'il y a six centrales. Les deux centrales, ils sont vraiment liés au gouvernement. Et quand, souvent, c'est eux qui font que la situation du pays est stable. Donc, nous, on a claqué la porte parce qu'ils ne disent pas la vérité. Si on travaille, on était avec eux dans la santé, mais les fonctionnaires ne sont pas contents des deux centrales. C'est pourquoi on a claqué la porte.
Quel type de délai attendez-vous pour être satisfait dans votre demande?
On n'a pas un délai, c'est que jusqu'alors, quand on a claqué la porte, le gouvernement ne nous a pas encore appelé. On va décider ce qui va se passer la semaine prochaine. Le travail de la synergie du Togo est fait. Se retrouve vendredi après-midi, on va décider ce qui va se passer la semaine prochaine.
Est-ce que vous pourriez nous dire combien vous gagnez par mois en tant que professeur de mathématiques?
Ce qu'on gagne par mois, c'est une liste. Les fonctionnaires togolais sont les moins payés dans la zone Imoa. Moi, je suis un professeur, mais je suis à 150 000 par mois. Je ne sais pas comment vous allez convertir ça en dollars.
Est-ce que vous pouvez rappeler depuis combien de temps, finalement, vous réclamez cette revalorisation salariale?
Depuis 2013. Depuis 2013, on avait commencé à demander cette revalorisation, mais on parle que des commissions. Ces commissions, on n'a pas d'été financé jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce que vous êtes nombreux à faire la grève dans le milieu de l'enseignement?
C'est plus de 200%. Et toute l'administration, que ce soit médecine, santé, fonction publique, la grève a vraiment toute l'administration dans le pays. C'est-à-dire que le gouvernement de faire tout pour que nos conditions de travail de vie soient améliorées d'ici la semaine prochaine, c'est que la grève fait.
Akora Kofitse, professeur de mathématiques à Lomé et membre de la STT.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Au Burkina Faso, en vue des élections présidentielles et législatives du 11 octobre prochain et des municipales du 31 janvier 2016, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a lancé à partir du 3 mars et ce jusqu'au 18 mai, une opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Le coup d'envoi a été donné par le président de la transition à Kaya, ville située à 100 km de Ouagadougou, la capitale. Reportage sur les enjeux de cette opération avec notre correspondant Zoumana Wonogo.
Avoir sa carte d'électeur sous le régime de Blaise Compaoré n'était pas la préoccupation de beaucoup de Burkinabés, surtout la frange majoritaire jeune. Les raisons suivant ce vox pop.
Vous voyez, la politique chez nous, c'est celui qui est au pouvoir qui mérite le pouvoir. Donc je veux dire que celui qui est au pouvoir, il n'a pas besoin de faire des voix. Mais de toutes les façons, même si tu votes, ça peut vérifier que l'acte que tu as posé va engendrer.
La jeunesse, 80% s'en fichait pas mal des cartes d'électeurs. Pour eux, ce sont des trucs machins.
En tout cas, autant de Blaise là, si tu votais ou tu ne votais pas, c'est la même chose. Il n'y aura pas de changement aussi. Puisque au niveau des trucs là, même des élections là, il y a des fraudes là-bas. Donc si tu votes ou pas là, en tout cas, c'est Blaise.
Si les uns et les autres avaient des motifs pour refuser de participer aux élections, ces raisons sont désormais caduques à la faveur de l'insurrection populaire. Tel est le sentiment du président de la transition, Michel Kafando.
Dans ce vent de renouveau et de liberté insufflé par la transition, plus rien ne devrait être invoqué par qui que ce soit pour ne pas s'inscrire sur la liste électorale. C'est en votant qu'on évite de se voir imposer des dirigeants irresponsables. C'est en participant au scrutin que l'on contribue à se choisir des régimes crédibles.
Cette révision exceptionnelle qui s'étale du 3 mars au 18 mai nécessitera des moyens financiers et humains. Suivant son opérationnalisation avec Maître Barthélémy Kéré, le président de la CENI.
Pour mener à bien cette opération, la CENI fait donc usage d'un personnel qualifié composé de plusieurs milliers d'opérateurs, d'aides opérateurs et encadré par des superviseurs, ingénieurs informaticiens. Ce personnel est équipé d'une technologie de pointe et travaille sous l'encadrement administratif des membres des démembrements et des commissaires de la CENI. L'enjeu de cette opération, c'est d'accroître de manière significative le taux d'inscription sur les listes électorales et par là même d'impacter sur le taux de participation aux élections devant mettre fin à la transition.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Bénin, pendant ce temps, la liste électorale permanente, informatisée et finalement prête, elle a été remise officiellement hier à la CENA, la Commission électorale nationale autonome, pour servir de base aux élections législatives prochaines. Ce qui vient mettre un terme à toute suspicion sur la non-tenue éventuelle des élections au Bénin, nous dit Peggy Ludovic Dagba.
La liste électorale permanente informatisée a été remise officiellement à la Commission électorale nationale autonome ce 4 mars 2015. Un acte qui vient définitivement installer dans ses prérogatives d'organisatrice des prochaines élections législatives la CENA, à en croire son président Emmanuel Tiando.
Avec la LEPI que nous recevons aujourd'hui, nous pouvons rassurer le peuple béninois que le processus électoral est définitivement entré dans sa phase très active parce que la LEPI constitue l'épine dorsale de l'organisation des élections dans notre pays, comme le prévoit notre code électoral. La poursuite du processus débouchera bientôt sur l'organisation des élections législatives. La CENA prend l'engagement aujourd'hui, en recevant cette liste, d'œuvrer de façon diligente à l'organisation de ces élections législatives prévues pour le 26 avril 2015.
Selon les statistiques que présente la LEPI, 4 470 591 électeurs prendront part aux prochaines élections. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur le problème d'accès à l'électricité en Afrique. Comment en êtes-vous affecté dans vos pays respectifs? Vos témoignages sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Soudan du Sud, les belligérants critiquent la résolution adoptée mardi par les Nations Unies, laquelle ouvre la voie à des sanctions au cas où un accord global ne serait pas conclu ce jeudi. C'était donc la course contre la montre hier à Addis Abeba où se déroulent des pourparlers visant à mettre fin à 15 mois de violence dans la plus jeune nation du monde. Le président Salva Kiir et son rival et ex-vice-président Riek Machar ont suspendu jeudi leur face-à-face et en fait n'ont pu s'entendre sur rien pendant 2 jours de discussion à huis clos. Ils rencontreront séparément les médiateurs de l'IGAD aujourd'hui. Chérubin Dorsil nous présente le reportage de Martha van der Wolf.
Après des mois de frustration, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de mettre à exécution le mardi 3 mars sa menace d'imposer des sanctions tant au gouvernement qu'à la rébellion, à moins que les deux parties n'arrivent à un accord détaillé de partage de pouvoir au plus tard le 5 mars. Pour Goy Joyul, un membre de la délégation de l'opposition sud-soudanaise, c'est une décision prématurée. Il fait pourtant remarquer qu'en dépit du malaise causé par cette résolution qui intervient durant les négociations, l'opposition salue le vote à cause de ceux qui font obstacle à la paix. Si rien n'est conclu aujourd'hui et que l'ONU impose des sanctions, celles-ci auraient pour effet de geler les avoirs et privilèges de voyage de n'importe quel individu considéré comme obstruant la paix ou coupable d'abus de droits humains. En cas de violation d'un accord par les deux camps, un embargo sur les armes pourrait s'en suivre. Jusqu'à hier soir, aucun signe de progrès n'était perceptible à Addis. Kir et Machar se sont entretenus pendant environ 5 heures mardi avant de continuer hier matin. Mais sur la question de la sécurité, les deux hommes sont loin d'être d'accord, dit Goy Joyul. Nous pensons que les questions sécuritaires requièrent beaucoup de mise en confiance. Aussi demandons-nous plus de temps pour l'intégration des forces. Cela ne devrait pas se faire aussi rapidement que l'exige le gouvernement. De son côté, le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères, Barnaba Marial Benjamin, estime aussi que la menace de sanctions est contre-productive. Selon lui, c'est une décision qui bloque en réalité le processus de paix. Elle remet aussi en question le partenariat conclu entre l'ONU et l'Union africaine. Ils auraient dû attendre, dit-il, la décision de l'IGAD avant de se prononcer. Le chef de la diplomatie sud-soudanaise s'est montré déçu du rôle des États-Unis dans l'adoption de la résolution du 3 mars. Mais le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn a rappelé aux belligérants que la région et la communauté internationale ne vont pas rester les bras croisés, tandis que s'accentue une crise politique et humanitaire au Soudan du Sud.
Salon de l'agriculture à Niamey au Niger, reportage d'Abdourazak Idrissa.
Pendant 5 jours, le palais des sports de Niamey est transformé en un véritable lieu de rencontres, d'échanges et de transactions diverses. La 2e édition du Salon nigérien de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage et de l'environnement Sahel-Niger offre en effet aux acteurs du monde rural une occasion de présenter les fruits de leurs travaux au public, comme ici au stand des aviculteurs.
Là, c'est le stand de la plateforme des acteurs de la filière avicole. On a pris des échantillons au niveau des fermes pour pouvoir exposer des poulets de souches exotiques qui sont des poules Brahma avec différentes variétés. On a amené des œufs de consommation qui se vendent, des pigeons qui sont un peu qui contribuent à l'élevage exotique. De l'autre côté, il y a également l'élevage à but lucratif. On a exposé des couveuses, on a exposé des poussins, on a exposé également des équipements tels qu'une plumeuse.
Vous exposez seulement ou bien vous vendez aussi?
On expose, on vend.
Entre une discussion avec deux visiteurs, Mustapha Kadri, producteur et transformateur d'oignons, nous explique ce qu'il fait avec son produit.
Nous transformons l'oignon, comme vous le voyez, nous le transformons en lanière et en semoule et en poudre. Donc cette poudre-là, nous avons un projet de transformation de 200 000 tonnes qui seront transformées en 20 000 tonnes de poudre. Et nous avons aussi la confiture. Nous faisons de la confiture d'oignon, que voici. Donc cette confiture d'oignon, elle est artisanale aussi, c'est à la main. C'est les femmes qui le font. Nous allons la transformer en industrie.
Un peu plus loin, Absou, venu de l'intérieur du pays, présente devant son stand son produit, du tapioca à base de manioc.
Voilà le manioc qui est là. C'est une tubercule qui est produite à Damari et transformée à Damari. Oui, les gens ont commencé à acheter. Pour nous, vraiment, ce qu'on avait priorisé, c'était l'exposition, faire voir le produit, faire connaître ce que nous faisons. Mais comme nous avons vu que les gens sont intéressés, nous étions obligés de vendre.
À l'autre bout du palais des sports, l'on aperçoit des béliers et des vaches avec des poids qui sortent un peu de l'ordinaire ici, ce qui émerveille le public qui a envahi les lieux dès le lancement du salon.
C'est tout simplement extraordinaire. Je retiens que il y a, même par rapport à l'édition de 2014, j'ai noté qu'il y a beaucoup de progrès.
On a vu
de très belles espèces, mais on a vu aussi de très bons produits, surtout comment les communautés s'organisent pour mettre en valeur en fait ces productions. Donc toute la chaîne de valeur, mais surtout à la fin la commercialisation.
Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Oui, galo, mbengkoto, mbengkoto, galo, nga. As galo, mbengkoto, mbengkoto, galo, nga.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Et je reste à Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info.